franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les autoroutes.
Vert, orange, rouge, parfois noir. Un ordinateur calcule, compte, les relevés des stations de comptage répartis un peu partout en France. Mieux vaut partir, si vous le pouvez, ce dimanche. Les couleurs ne devraient pas virer au noir. Cette couleur, elle est prévue, mais pour le chassé-croisé du 1er août.
La naissance de Bison Futé, vous l'avez reconnu, c'est 1976. Et si cet été, ralenti peut-être par les encombrements aux péages et aux échangeurs, nous songions à des époques beaucoup plus lointaines. Année 1910, les États-Unis lancent de très longues routes vers des destinations lointaines. Année 1920, l'Italie, la première en Europe, imagine la définition de l'autoroute. Pas d'accès direct aux propriétés des riverains, mais seulement quelques points d'entrée et de sortie. Six croisements à des niveaux séparés. Combien de fois nous a-t-on répété que la France avait pris du retard par rapport à ses pays pionniers ? Il est vrai qu'en 1954, nous n'avions au compteur que 77 km, mais depuis, nous avons développé un tel réseau qu'à partir de 1963, il fallut lui appliquer une numérotation et ensuite baptiser la numérotation, l'Arverne, l'Occitane, etc. La question en fait aujourd'hui est de 11 000 km, faut-il vraiment tenter de passer à 15 000 en une dizaine d'années ? Les effets des autoroutes ne correspondent pas en effet mécaniquement aux promesses affichées au moment de la construction. Armand Frémont, bonjour.
Bonjour.
Pour une fois, pour cette dernière émission de la saison, un géographe qui est en même temps un historien. Chers auditeurs, si vous aimez la géographie, vous avez lu Armand Frémont. Et si vous n'aimez pas encore la géographie, c'est que vous n'avez pas encore lu Armand Frémont. Vous êtes capable, Armand Frémont, de faire... Vous avez imaginé monter ça, 7 livres sur Romorantin, par exemple.
Pourquoi pas sur Romorantin ? Romorantin, c'est un archétype, hein, à la fois de la France profonde et d'un certain dynamisme et de renaissance.
Alors, les autoroutes, c'est ça.
Pourquoi pas sur Romorantin ?
Les autoroutes, c'est rejoindre toutes les régions et leur permettre le meilleur dynamisme possible. Il faut que je dise que, en même temps qu'un excellent styliste en géographie, vous avez à de nombreuses reprises choisi l'engagement dans des actions, entre autres engagements. Vous êtes investi autour de l'an 2000 dans l'aménagement du territoire. Je citais pour commencer cette émission l'Italie, l'Espagne, les mythes des autoroutes. Commençons par les mythes, viennent d'ailleurs.
Oui, les mythes des autoroutes viennent d'ailleurs. Ce que vous avez cité est très significatif. La première autoroute italienne qui part de Milan pour aller vers le nord et vers les lacs préalpins, c'est au fond une autoroute des loisirs. Donc, quand on part, comme aujourd'hui, il y a une idée de vacances. L'autoroute, c'est aussi une priorité dans sa conception. C'est une priorité absolue à la voiture. On écarte tout ce qui peut gêner la voiture et lui permettre d'atteindre une vitesse importante en toute sécurité, d'où les deux grands couloirs d'autoroute. L'autoroute américaine que vous citez au début, l'autoroute américaine, c'est la distance. On va avaler des kilomètres avec l'autoroute, beaucoup plus qu'avec nos petites routes qui sont le décalque de l'ancien régime, peut-être. Alors, on va avaler de la distance avec l'autoroute. Que dire encore ? Elle a un peu... Vous avez oublié les autoroutes allemandes. Les autoroutes allemandes, prévues avant le nazisme et puis développées avec le nazisme. Il y a un côté stratégique dans les autoroutes.
D'ailleurs, en 1939, il y a déjà en Allemagne 3000 km d'autobahnen. Et c'est à ce moment-là que nous, on ouvre le tunnel de Saint-Cloud. Quand vous prenez l'autoroute tout à l'heure, après cette émission, vous allez vers votre Normandie sensible. C'est le dernier titre que vous avez publié. Armand Frémont, vous prenez le tunnel de Saint-Cloud.
En France, l'ancien pont de Saint-Cloud, point de départ de l'autoroute de l'Ouest, va disparaître pour être remplacé par un nouveau d'une largeur de 30 mètres. Voici la maquette de l'entrée du tunnel qui passera sous les coteaux de Saint-Cloud. Ce souterrain de 850 mètres de longueur et large de 27 mètres sera terminé dans 2 ans. Le tunnel, resplendissant de lumière, soigneusement ventilé, débouchera à l'endroit où la route de Versailles traverse la ligne de chemin de fer électrique de Vaucresson. 27 ouvrages d'art permettront de passer par-dessus les chemins ou sous les routes sans aucun croisement. Les automobilistes pourront s'enfoncer sous bois, sans limitation de vitesse, sur une route qui leur évitera aussi bien les lacets de Ville-d'Avray que les encombrements de Saint-Germain. 2 raccordements intermédiaires, l'un à Vaucresson, l'autre à Roquencourt, constitueront avec les points extrêmes les seuls accès de l'autoroute. À Roquencourt, la route se séparera en 2 branches. L'une aboutira à la route de Rambouillet, l'autre rejoindra la route de Mantes, dans le voisinage d'Orgeval, à la Maladrerie.
Évidemment, la construction de l'autoroute prendra quelques retards par rapport aux prévisions de cette archive d'avant-guerre. En 1954, disais-je, seulement 77 km d'autoroute. L'autoroute de l'Ouest était pionnière.
L'autoroute de l'Ouest est absolument pionnière et elle signifie quelque chose. La première des autoroutes françaises qui a été conçue un peu avant la guerre, c'est pour ça qu'elle n'a pas de chance. Elle est conçue un peu avant la guerre, elle est inaugurée pendant la guerre, sous le régime de Vichy, sans servir. Et puis finalement, elle fonctionne après la guerre, elle tombe mal. Mais enfin, pourquoi cette autoroute de l'Ouest ? Je reviens à ma Normandie quand même, puisque vous l'avez citée. C'est que, alors, le développement Paris-Normandie est quelque chose d'essentiel dans la structuration de la France. Et à la fois pour les loisirs et également pour l'économie, avec les paquebots et les cargos qui aboutissent au Havre. Donc la première autoroute, elle dit déjà tout de ce qu'on veut faire des autoroutes, même si elle a un côté un peu avorté.
Ce qu'on veut faire, le premier plan d'aménagement du territoire, c'est 1950. À 2 pas de l'immeuble de Mangin où est situé France Inter, il y avait le ministère de la Reconstruction en préfabriqué à l'emplacement de l'actuel parc de Passy. Et c'est là qu'émerge, dès la 4e République, l'idée et le bureau de l'aménagement du territoire qui va finir, la reconstruction avançant, par se préoccuper de cette question de l'autoroute.
Oui, en effet, bien significatif aussi, hein, ce saut de puce au-dessus de la guerre. Les hauts fonctionnaires de l'avant-guerre qui avaient des dossiers, qui les ont attendus, qui ont pu les pousser plus ou moins sous Vichy, qui aboutissent sous la 4e République et qui sont inaugurés ou magnifiés sous la période gaulliste. L'autoroute, c'est aussi ça. Et là, elle va prendre de plus en plus une dimension, je dis elle, hein, comme si c'était une personne. Elle va prendre une dimension réelle et mythique. C'est la modernisation de la France. C'est la modernisation de la France. Et avec une période économiste où on fait des pôles, où on fait des axes. Et le grand axe qui va s'imposer, le premier... C'est la grande diagonale nord-ouest-sud-est, c'est-à-dire Lille-Paris, Lyon-Marseille.
Vous n'avez pas oublié une chose, Armand Frémont, c'est le financement. 1955, sous la 4e République, une loi permet le péage. Et en 1960, sous la 5e République, un décret va mettre en application la loi. Et c'est de ce début des années 60 que date notre archive où nous croisons, parce qu'il y a un vrai débat sur les priorités à mettre en action, le ministre des Finances, la délégation à l'aménagement du territoire d'un côté, puis le ministre tout nouveau des Affaires culturelles ensuite.
Les 3500 km d'autoroute, c'est des données prévues au plan du ministère des Transports et des Travaux publics pour 15 ou 20 ans. La nouveauté, c'est que Le ministre des Finances, M. Baumgartner, a reconnu que l'aménagement du réseau routier avait un caractère hautement prioritaire et que pour l'année 1961, on allait donner priorité aux autoroutes et parmi elles, aux autoroutes de dégagement. Est-ce que vous savez combien coûte la construction d'un kilomètre d'autoroute?
J'avoue que non.
Eh bien, c'est 200 millions.
Je dis clairement, ce que je demande, c'est exactement 25 kilomètres d'autoroute. Pour 25 kilomètres d'autoroute, nous tentons la culture pour chacun. Cette tentative veut dire que nous devrions, dans les 10 ans, avoir en France une maison de la culture par département. Pour cette somme misérable, nous pouvons faire que dans les 10 ans qui viendront, nous restions le premier pays culturel du monde.
Vous vous souvenez de ce débat, Armand Frémont?
Oui. Alors, il y a le débat, là, Baumgartner-Malraux, finalement toujours d'actualité. Hein. Et puis derrière, il y a un autre débat autour du péage. Il y a un autre débat. Les Français n'aiment pas le péage. Il est très mal passé, le péage, au début. Hein. Maintenant, c'est devenu une habitude contrainte qu'on n'aime peut-être pas beaucoup, mais enfin, ça passe. Mais au départ, le péage, on a eu du mal à l'avaler. Et par conséquent, si vous voulez, songeons bien à ça. Mais en même temps, la route, car la route, c'est une affaire de l'État. Et par conséquent, cette affaire de l'État, comment la concilier avec le péage? Ça va être une question récurrente dans l'histoire des autoroutes.
Mais c'est l'État qui décide de la carte. Alors, vous parliez tout à l'heure de la diagonale, quand je vous ai interrompu. Ensuite, la carte décidée par l'État elle ressemble étrangement quand même à la carte des chemins de fer, telle qu'elle avait été décidée par la monarchie de Juillet dans les années 1840. C'est une déesse, Paris, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bras.
Dans toutes les grandes innovations, même très innovante, on n'échappe pas aux pesanteurs des structures fondamentales. Et une pesanteur des structures fondamentales, pesanteur, ce n'est pas forcément péjoratif, le poids, c'est la France centralisée sur Paris. Dans tous les moyens de transport contemporains, modernes, qui vont être développés, il n'y a pas seulement les autoroutes, on va retrouver l'étoile partant de Paris et desservant les grandes villes de province. Et donc, on passe au réseau en étoile.
Sauf qu'au bout d'un moment, souvenez-vous de ce que disait le général de Gaulle, ce sont les activités régionales qui apparaissent désormais comme les ressorts de la puissance économique de demain. Il n'était pas si jeune comme ça, de Gaulle, surtout à la fin. On va avoir des connexions, des transversales,
oui, et
des méridiennes.
Bien entendu. Et nous voilà sur notre troisième manière de construire des autoroutes. On fait un maillage de la France. Et notamment parce que les régions, les notables des régions, les hommes politiques des régions demandent leur bout d'autoroute, demandent leur transversale, y compris des illustres. Hein. La traversée de l'Auvergne, il y a eu deux présidents de la République auvergnate, il fallait bien passer par l'Auvergne.
Un peu moins connu, le duc de Lorraine, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui présidait aux destinées de la toute nouvelle région dans les années 1970. Alors voilà justement ce qui se passe en Lorraine.
La mise en service de 51 km d'autoroute entre Nancy et Metz marque surtout le début d'une nouvelle étape dans l'aménagement de la Lorraine. Il n'y a plus d'obstacle entre les deux pôles de la métropole lorraine et le réseau autoroutier allemand auquel se raccorde la A31. L'ouverture de la nouvelle autoroute, véritable épine dorsale de la région lorraine, annonce une autre orientation importante. La fin de la compétition entre les sudistes de Nancy et les nordistes de Metz-Thionville.
Oui, le doublet urbain. Nancy, Metz, et puis la Lorraine, c'est la connexité entre des villes du sud et du nord de la région, puis la connexité avec l'espace européen. Il a été pensé, le réseau autoroutier, en fonction de l'espace européen aussi.
Il est devenu maintenant un élément de l'espace européen et un élément majeur. Car, et c'est ainsi que peut-être on peut lire un nouveau dessin des autoroutes françaises. Car, est-ce que l'on souligne assez ? D'abord que l'agglomération parisienne dans son ensemble est la première européenne, la première en tout cas de l'Europe continentale. C'est donc un pôle central. Et qu'en même temps, on aime bien en faire le contournement, parce que notamment pour les poids lourds, ce n'est guère commode de passer par là. Est-ce qu'on souligne assez que les pays de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne, ne peuvent pas faire autrement lorsqu'ils font commerce par la route avec l'Europe du Nord, de passer par la France. Et qu'il en est presque de même d'une partie de l'Italie. Par conséquent, du point de vue autoroutier, j'emploie le terme, la France est devenue une sorte de grand rond-point. Comme nous avons des ronds-points à nos sorties de ville, nous sommes un grand rond-point autour duquel tournent les camionneurs, les touristes, portugais, espagnols, belges, etc.
Nous sommes toujours dans les années 70 dans notre histoire des autoroutes, Armand Frémont, inauguration de l'autoroute de l'Est. Il devait y avoir encore le duc de Lorraine, je veux dire le président Jean-Jacques Servan-Schreiber, inauguration en grande pompe. Les limitations de vitesse n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Henri Pescarolo conduisait une voiture, un bolide. La musique qui devait pulser a été commandée à cette époque à Jean-Michel Jarre. Jusqu'aux années 70, c'était les sociétés d'économie mixte qui avaient la charge de la construction puis de la concession des autoroutes. Regardez je ne veux pas ironiser sur le rôle qui a joué M. Balladur, par exemple. Regardez la société du tunnel du Mont-Blanc. Là, il s'agissait de connexion avec l'Europe. C'était une société d'économie mixte avec plus de 50% des parts qui étaient contrôlées par l'État et la nomination du président. Société privée à partir de 72, ça veut dire qu'il y a des enjeux financiers beaucoup plus importants, Armand Frémont ?
Il y a forcément des enjeux financiers. Il y a aussi une évolution politique. Hein, si on nous suit bien, la route, l'autoroute, c'est une affaire d'État au départ. L'État ne suit pas complètement. On passe au péage, à la société d'économie mixte. Et puis, finalement, il y a beaucoup d'argent qui circule là et on passe à des concessions de services publics qui laissent en fait à des sociétés la totalité de l'usage, du financement, de l'entretien et évidemment des recettes.
Le témoignage que je vais vous faire entendre est digne de crédit, mais c'est une fiction. C'est le film de Xavier Giannoli, 2009, qui s'appelle « À l'origine ». Alors là, on est à l'origine, hein. On est avant l'entretien, on est avant même la construction, au tout début du chantier. Il y a une telle multiplication de sociétés privées que les maîtres d'œuvre deviennent très nombreux, les sous-traitants, ils font ce qu'ils peuvent.
En fait, chez CGI, il y a 1700 filiales qui ont des ramifications sur la planète entière. Cela dit, en France, les travaux publics, c'est plus que des problèmes pour une boîte comme la nôtre. Non, mais c'est vrai, c'est tellement surveillé, c'est tellement contrôlé.
Parce qu'en fait, Patrick et moi, nous, on a une société de location d'outillage sur la commune.
Votre prédécesseur préférait travailler avec nos concurrents.
Après, on a compris, hein. En fait, le directeur des travaux, il attendait quelque chose qu'on lui a pas donné. Et du coup, il a pas fait affaire avec nous. Donc nous, si les travaux devaient reprendre, on voudrait pas se faire doubler une deuxième fois. On serait prêt à aller jusqu'à 15% de remise.
15%?
15% du montant global.
Bah, en liquide, ça fait une belle enveloppe, hein.
Ce sont les choses qu'on ne voit jamais, ça, Armand Frémont.
Non, non. Je ne dis rien.
Et oui, vous avez été un haut fonctionnaire républicain, recteur d'académie. Est-ce que vous voulez...
Je vous interromps. Vous avez parlé du duc de Lorraine.
Oui, Jean-Jacques Servan Schreiber.
Il faut parler d'une autre exception. C'est la duchesse Anne.
Ah oui, la Bretagne.
La Bretagne.
Bah, alors là, c'est gratuit.
Bah, la Bretagne, elle n'a pas fait des autoroutes, mais des quasi-autoroutes. Et ces quasi-autoroutes, elles ne sont pas comme les autres. Elles sont sans péage, elles sont restées telles quelles. Pour méditer, simplement, je dis ça.
Alors, il y a le cas de l'autoroute des présidents que vous citiez. Il y a le cas de la Bretagne. Alors, pour méditer, tenez, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il serait imaginable que les compagnies concessionnaires, qui manient beaucoup d'argent, assurent l'entretien des autoroutes gratuites, comme celle de Bretagne ou comme celle des présidents dans le Massif central?
On peut imaginer toutes les péréquations possibles. En tout cas, maintenant, comme on dit, on est rentré dans un système complexe.
Oui, d'autant que à partir de 2006, un nouvel élément est intervenu. L'État a vendu ses parts dans plusieurs compagnies concessionnaires pour 14 millions d'euros à l'époque. On se souvient que François Bayrou avait empêté à l'Assemblée nationale et que la Cour des comptes, peu après, avait dit « c'est peu cher payé, on aurait pu tirer 10 milliards d'euros supplémentaires ». Les mêmes compagnies d'ailleurs, Vinci, Eiffage, telle compagnie espagnole, vous expliquent maintenant que les délais de concession doivent être encore plus longs.
Bien entendu, là on est devant le problème de l'investissement privé en rapport avec l'État. Alors que l'État, normalement, est le maître de l'affaire, et à la fois par la tradition et par le droit. Et tout le problème est de savoir quel équilibre on va trouver. Disons que, au cours des 20 dernières années, et surtout peut-être des 10 dernières, l'équilibre a basculé. Et que maintenant, on est dans un nouveau régime de fait.
Complexe, avez-vous dit.
Complexe.
Oui, on ne va pas approfondir davantage. Quelles sont les questions que un géographe se pose quand il rouspète au péage parce que le taux est trop élevé, qu'il met en cause, vous le faites modérément, les compagnies concessionnaires? Quelles autres questions se pose-t-il sur les conséquences de l'aménagement autoroutier sur l'espace français?
Bien, il pense que... Prenons vraiment du champ.
Vous avez même le droit de parler à la première personne.
Prenons du champ, hein. La première chose, c'est que il y a un équipement formidable qui a été réalisé, comme beaucoup d'autres, au cours du dernier demi-siècle. Un équipement qui met la France en Europe dans une situation technique, pratique, pour tout le monde. Tout à fait commode.
D'accord, mais est-ce que ça n'a pas siphonné l'autoroute, souvent, des régions qui en espéraient un regain d'énergie?
Alors, à partir de là, se poser les différentes questions. La question du financement et du profit, on en a parlé, même si on en a parlé un peu en sourdine.
Je ne vous le fais pas dire. Hein, enfin,
la deuxième chose, c'est la même question qui se pose pour le TGV. Quelle est la valorisation? Quelle est la valorisation pour les régions d'avoir ce rapport de vitesse avec Paris, avec l'Europe, tout à fait important? C'est une question récurrente, là aussi. Est-ce que ça la valorise? Est-ce que c'est essentiel pour sa valorisation? Est-ce que ça ne peut pas aussi la siphonner? Bon, je laisse là à de belles études d'en parler.
Mais on peut faire des études beaucoup plus locales. Alors là, les réponses sont peut-être plus précises. Est-ce qu'un échangeur, par exemple, ça va être un gage de développement pour la zone où il s'installe? Parce qu'on se bat pour que l'échangeur soit ici, et bah, pas 30 km plus loin.
Il n'y a pas de doute qu'à un moment, bah, tout dépend quand même du contexte dans lequel on se trouve. Si on a un échangeur en race campagne, dans un pays à très faible densité de population, on n'aura pas grand-chose autour. Mais si on a un échangeur bien conçu, avec à proximité une zone artisanale, industrielle de valorisation, c'est autre chose.
Quand vous regardez une aire d'autoroute, vous avez des questions particulières? Vous vous dites que c'est fonctionnel, c'est culturel,
peut-être pas que je m'étends.
Ça peut être criminel.
Alors, c'est tout ce qu'on veut. Une aire d'autoroute, c'est...
Si, c'est un lieu d'observation intéressant pour un géographe.
C'est comme une salle d'aéroport. Ce sont les nouveaux lieux de la vie. Les nouveaux lieux de la vie itinérante, où il y a tout, tout notamment à consommer, mais aussi à se reposer, à se distraire. Et en même temps, si on est pessimiste comme je le suis de temps en temps, où il n'y a rien.
Attendez, on ne va pas utiliser tout notre temps de cerveau disponible sur les autoroutes à se poser des questions et à devenir pessimiste. Ce n'est pas bon, toutes ces interrogations. Ça finit par faire monter la tension.
Tu prends pas la file de gauche, ça roule mieux.
Faut bien que j'essaye.
Attention ! Pourquoi tu fais cette tête ?
Quelle tête ?
Tu as l'air énervé.
Mais c'est vrai, ça m'énerve d'être sur la file de gauche alors qu'on était très bien sur la file de droite.
Si tu es fatigué, je peux conduire.
Moi, je me déjà dit non.
C'est une déviation pour prendre la droite.
Merci, j'ai vu. J'ai jamais fait une seule fois cette route sans qu'il y ait au moins une déviation quelque part. Faut pas refaire les routes l'hiver. Non.
Quand il gèle.
Oui, j'en sais rien, ou l'automne, mais pas quand il y a 2 millions de personnes sur les routes.
Qu'a dépassé l'embranchement.
Quel embranchement?
Celui pour Tours.
Et tous les autres derrière, là?
Sois pas stupide, ils vont pas tous à Tours.
T'inquiète, tu vas y aller à Tours.
Qu'est-ce que tu fais?
J'en ai marre, j'ai envie de rouler.
Au fond, ça arrive. Peut-être tout à l'heure, vous allez prendre l'autoroute de Normandie avec Madame Frémont. Et vous allez dire, il y en a assez. D'ailleurs, il y a assez d'autoroutes. C'est une question maintenant qui se pose.
Ah ben, je pense que c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que l'autoroute, c'est... la recherche de la vitesse au maximum sur des grandes distances. Or, maintenant, je crois qu'à peu de choses près, dans l'Hexagone, on a atteint l'objectif. À quelques corrections près.
Ah bah attendez, pour l'instant on est à 11 000, il y en a encore qui veulent arriver à 15 000 un peu après 2020. C'est pas
Est-ce
une correction,
bien nécessaire ?
C'est 3 000 kilomètres.
Restons dans la question des transports et réfléchissons à est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus urgent à l'heure actuelle. On dit, et c'est une réalité, que la France de plus en plus se rurbanise, c'est-à-dire que l'habitat est de plus en plus dispersé, l'habitat urbain est de plus en plus dispersé dans un espace rural, et que là, vous avez des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de se passer de leur voiture pour leur quotidienneté absolue. Et là, on n'a pas la recette. Il n'y a pas d'autre solution que la voiture. Quand on essaye un transport en commun autre, tel que le bus, il est plus ou moins ridicule si on est à une certaine distance parce qu'il n'y a personne dedans, vu la dispersion. Bon. Ça, c'est du quotidien. Et c'est du quotidien qu'une grande partie de la population française, probablement 40%, connaît.
Alors, c'est ça qu'il faut améliorer en liant aussi la route au transport ferroviaire. Et mieux offrir ça que des kilomètres d'autoroute en périurbain qui coûtent extrêmement cher.
Et au problème de l'habitat.
Armand Frémont, merci. Alors, j'indique à nos auditeurs qu'à partir de lundi, à la même heure, 13h30, Il change le monde avec Caroline Fourest. Les héros interviewés, eh bien, c'est ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure. Quant à nous, rediffusion de La Marche de l'Histoire, tous les jours, cet été, à partir donc de lundi, après le journal de 20h. Grégory, Vallon, Sandrine, Laurent, Jacques Sigal, Laetitia Legrand, Camille Poux, Jalavier, Franck Olivard, Frédéric Martin. J'ai cité toute l'équipe. Je ne pense pas avoir oublié Jacques Sigal, le réalisateur. Si, si. Il est 14h. Vous écoutez France Inter.